Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Comme tous les jours, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à peine entré en vigueur, le pass vaccinal de certains Français pourrait bientôt être suspendu. 9 millions de personnes, vous le verrez, sont concernées. Dans ce journal également, Emmanuel Macron, rattrapé par la crise ukrainienne. Et puis on croise les doigts pour Gaël, mon fils, en lice pour une place en demi-finale de l'Open d'Australie. Le Français a perdu le premier set. Il est mené 5-4 dans le deuxième. C'est donc très, très serré.
Et je l'ai dit il y a quelques instants, nous aurons deux témoignages graves, poignants, dramatiques. D'abord, cette enquête sur la face cachée des EHPAD avec la fille de Françoise Dorin qui a accompagné donc sa mère. Et puis à 12h50, autre témoignage très fort, la mère d'Alexandre Martin qui est donc décédée samedi au Mali. C'est la première fois qu'elle prend la parole.
Notre question du jour sur RTL.fr. Maison de retraite, prenons-nous suffisamment soin de nos aînés? Réponse sans appel, hein, vous dites non à 76%. Notre météo du jour, c'est avec vous Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Est-ce qu'on a une petite chance de voir le soleil au nord?
Oh, c'est pas gagné. Hein. Ah. La grisaille est bien tenace. En tout cas, elle va résister entre la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, ça c'est sûr. Sur le reste de la moitié nord, ça va se dissiper un petit peu plus. Malgré quelques plaques localement, on devrait apercevoir un peu plus de soleil, comme vers la vallée de la Garonne. Et sur toute la moitié sud et en montagne, encore du très beau temps avec des températures globalement comprises entre 10 et 14 degrés au sud. C'est plus froid sous la grisaille au nord, entre 3 et 6, 7 degrés.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et on commence donc avec cette mise en garde signée Olivier Véran. 9 millions de Français risquent de perdre leur passe vaccinal dans les toutes prochaines semaines, dès le 15 février. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
Et ça concerne qui?
Eh bien, toutes les personnes de plus de 18 ans qui auront reçu leur deuxième dose avant la mi-octobre et qui n'auront pas encore fait leur dose de rappel. Car la règle change en effet au 15 février. Pour conserver son passe vaccinal, la troisième dose devra avoir été faite au maximum 4 mois après la deuxième, contre 7 aujourd'hui encore.
Alors pour bien comprendre, on va essayer d'être très concret. Imaginons, j'ai reçu ma deuxième dose le 10 octobre, il me faut une troisième?
Oui, parce que là, le 15 février, sans dose de rappel, vous n'aurez plus de passe vaccinal. Ça fera plus de 4 mois, 4 mois et 5 jours pour être précis, que vous aurez reçu votre deuxième dose. Donc, vous devez impérativement faire votre dose de rappel avant mi-février.
Et si je me suis fait vacciner le 15 novembre?
Alors là, vous avez un peu plus de temps pour faire votre dose de rappel. Si
vous
prenez 4 mois après le 15 novembre, on arrive au 15 mars. Vous avez donc jusqu'à mi-mars pour faire votre troisième dose.
Je ne vous demande pas le 15 décembre, hein, vous avez remarqué.
Mais je peux, ça, vous aurez jusqu'au 15 avril.
Non mais c'est 4 mois.
Voilà, c'est 4 mois après la deuxième dose.
Mais ça a changé donc
ça change au 15 février. Aujourd'hui encore, c'est 7 mois.
Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Sophie, c'était très clair. Autre courbe que le gouvernement surveille comme le lait sur le feu, c'est celle des prix des carburants. Plus d'1,72€ le litre de sans-plomb en moyenne, 1,65€ pour le gazole. Bonjour Martial Youp.
Bonjour.
L'exécutif envisage de changer le barème utilisé pour le calcul de l'indemnité kilométrique. Concrètement, qui pourrait être concerné?
Alors, il faudra travailler et il faudra payer des impôts. Donc ça concerne 2,5 millions de Français qui déclarent ce qu'on appelle donc les frais réels. Ce sont des professions libérales, des commerciaux, des artisans, des indépendants. Plus vous roulez, plus vous avez une grosse voiture et plus vous y gagnez. Parce que le forfait kilométrique prend en compte en fait le nombre de kilomètres que vous faites pour le travail dans une année, plus un coefficient qui augmente en fonction des chevaux de votre voiture. Donc en clair, si on prend un exemple, vous parcourez 30 000 km en Clio 4 chevaux, vous pouvez déduire 10 560€ de vos revenus imposables. Mais si vous avez un Peugeot 5008 de 9 chevaux, ah ben là vous pouvez déduire 12 150€. C'est déjà le cas.
Ce n'est pas très écolo.
Ça c'est sûr. Et ça évite en revanche de toucher aux taxes. Et c'est ce qui compte pour le gouvernement en ce moment. Parce que les taxes sur le carburant, ça rapporte 38 milliards d'euros par an. Si vous voulez baisser les taxes de 10 centimes par litre, ça coûte 5 milliards. Avec le forfait, c'est moins cher puisque ça ne touche, je vous l'ai dit, que 2 millions de personnes.
Martial Youp, chef du service économie de RTL, en déplacement en Haute-Vienne. Emmanuel Macron a confirmé tout à l'heure que le gouvernement travaillait bien sur d'éventuelles nouvelles mesures. Difficile toutefois, explique-t-il, d'avoir un impact rapide. Le président qui a également évoqué l'autre sujet délicat du moment, la crise en Ukraine.
J'ai eu un appel hier avec
le président Biden et plusieurs de mes homologues européens. Et nous avons pu échanger à la fois nos informations et collectivement faire part de notre très grande préoccupation et appeler à une désescalade des tensions.
Après plusieurs jours de tensions et alors que les États-Unis ont placé plusieurs milliers de militaires en alerte, Emmanuel Macron veut proposer un chemin de désescalade à Vladimir Poutine. Les deux hommes devraient d'ailleurs s'entretenir dans les tout prochains jours. Qu'en dit-on à Moscou, Félix Grasso ?
Comme depuis le début de cette crise, la Russie se défend de vouloir attaquer l'Ukraine. Elle accuse en retour Washington et ses alliés de russophobie ou d'attiser les tensions en diffusant des fake news. Mais en parallèle, les autorités russes organisent des manœuvres avec l'armée biélorusse à la frontière de l'Ukraine, tout en multipliant les manœuvres navales, ce qui ne contribue pas à faire baisser les tensions. Du côté des experts, on estime que cette surenchère militaire n'a qu'un but, exercer une pression maximale sur les États-Unis et leurs alliés, à l'heure où Moscou attend des réponses écrites aux propositions faites par la Russie pour garantir sa sécurité. Une façon de montrer à ses partenaires que la Russie est plus déterminée que jamais à définir une nouvelle architecture de sécurité européenne inscrite noir sur blanc dans le droit international et qui prenne en compte la préservation de ses intérêts. Pour les Russes, la balle est désormais dans le camp des Occidentaux et la suite des événements leur appartient.
Et Félix Grasso, le correspondant de RTL en Russie. Le Cameroun et la Confédération africaine de football ouvrent une enquête après ce drame hier. Au moins 8 morts à l'entrée du grand stade de Yaoundé avant le match de la Coupe d'Afrique des Nations contre les Comores. Clément Terra sur place pour RTL et il a recueilli le témoignage d'un supporter qui a perdu l'un de ses amis lors de la bousculade.
Il était venu pour un moment de fête avec son ami quand la soirée a viré au drame avant même que le match ne commence.
On a suivi des bousculades à l'entrée du stade. On est sorti pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Quand on est arrivé, on a trouvé des gens qu'on ventilait par terre. On était en train de faire du bouche à bouche à d'autres, mais ils n'ont pas pu supporter, ils ont rendu l'âme.
Face à la gravité de la situation, Kevin n'a pu contenir ses émotions.
Après, j'ai voulu rentrer, mais c'est mon ami qui m'a dit « Ben non, on est venu voir le match, si tu m'abandonnes, je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer. » Moi, j'étais plus dans moi. J'ai eu des frissons, j'ai ressenti de la tristesse en moi.
Ce supporter venu encourager l'équipe nationale de son pays remet en cause les conditions d'accès à ce stade. Construit spécialement pour la Coupe d'Afrique des Nations, il n'est pas tout à fait terminé.
Comme Olympia n'est pas fini, les supporters sont obligés de rentrer au même endroit. Tout le monde arrive dans la même zone. Après, chacun a le couloir à laquelle il part pour rejoindre sa place. C'est à cause de ça que tout le monde se regroupe.
Le président du gouvernement, Paul Biya, a ordonné une enquête sur l'incident.
Clément Terra au Cameroun pour RTL.
À l'Open de tennis d'Australie, qualification la nuit dernière de Raphaël Nadal. Et désormais, c'est Gaël, mon fils, qui est sur le court.
Et c'est Isabelle Langer qui suit tout ça pour nous. Bonjour Isabelle, le français.
Bonjour.
Pour qui ça ne va pas trop bien mener 2-7
à rien. C'est moins compliqué. Exactement, il a perdu les deux premiers sets 6-4, 6-4 face à l'Italien Matteo Berrettini, 7e joueur mondial qui lui mène la vie dure. Franchement, le problème c'est que mis à part un jeu incroyable qui a duré quand même la bagatelle de 20 minutes sur le jeu de Berrettini pendant le deuxième set, pendant lequel d'ailleurs Gaël Monfils a eu 3 balles de break qu'il n'a pas su convertir, eh bien le match est un petit peu à sens unique. Il est monstrueux l'Italien, notamment au service avec une première balle boulet de canon, il a du mal à s'exprimer, Gaël, mon fils. Espérons qu'il arrive un petit peu à redresser la barre, à entrer un petit peu plus dans la tête de Berrettini pour le faire douter et reprendre un petit peu des couleurs dans ce match parce que pour le moment, c'est à sens unique et les demi-finales s'éloignent pour le tricolore. 6-4, 6-4, donc pour Matteo Berrettini. On rappelle que le vainqueur jouera en demi-finale contre Raphaël Nadal.
On est à 40-15 dans le troisième set avec mon fils au service. Bon, avec un peu de chance, au moins le premier jeu du troisième set. Bon, merci en tout cas Isabelle, on compte sur vous pour nous tenir informés et tout n'est pas encore perdu. Non, j'attends juste pour au cas où la balle se termine. Mais non, mais moi, voilà, il gagne le premier jeu du troisième set. À tout à l'heure Isabelle. Tout autre chose, ce site qui est l'un des plus consultés de France, 450 millions de visiteurs chaque année, c'est celui de la SNCF. Pascal, j'en suis sûre, vous l'avez forcément déjà utilisé. Eh bien, il change de nom, l'application aussi, Oui SNCF, devient SNCF Connect. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Vous avez testé tout ça pour RTL, ça donne quoi? C'est mieux ou moins pire?
Alors moins pire, on va le dire, mais certains seront perdus au départ avec cette nouvelle version, car sur cette application, et comme sur le site, eh bien la première chose que vous allez voir, c'est une barre de recherche unique, comme sur Google, et vous pouvez lui demander plusieurs choses. Pour partir à Nice ce samedi, il suffit d'écrire Nice samedi, et c'est juste après que le site vous proposera eh bien, des trains pour Nice dans la journée de samedi, avant d'où vous deviez cliquer sur train et faire la recherche. Nouveauté également, vous pouvez indiquer indiquer l'adresse exacte de départ et d'arrivée. Et l'application vous donnera quel bus, métro ou transport en commun utilisé pour aller jusqu'à la gare. Le calendrier des prix mensuels a disparu. Impossible de voir le train le moins cher sur le mois. Ça, pas évidemment, pratique. C'est un point moins négatif. La SNCF ne vendra pas non plus les billets du concurrent à grande vitesse Trenitalia, par exemple, mais le fera pour les TER concurrents. Au total, 300 personnes ont quand même travaillé sur cette application pendant un an et demi et près de 4000 clients l'ont testé avant sa mise en ligne, c'était cette nuit. Le site et l'application sont néanmoins beaucoup plus modernes et dotés d'une couleur bleu nuit. Assez agréable, il faut le souligner.
Mais il est mis en ligne à l'instant ?
La mise à jour a été faite cette nuit.
Parce que là, moi, pendant que vous
c'est
parliez...
C'est toujours oui, SNCF chez vous ?
C'est toujours oui, SNCF chez
sur l'application, elle va se mettre à jour là, dans les prochains jours. Vous pouvez forcer la mise à jour, mais par contre, le site internet vient de changer. C'est sncf-connect.com ou .fr.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Une pause est dans un instant. La face cachée des EHPAD. La fille de Françoise Dorin est l'invitée de RTL Midi. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Les couches, les protections, effectivement, elles sont rationnées, mais aussi les produits d'alimentation. J'ai une aide-soignante, il me raconte comment, même à Orpea, bord de Seine, dans cet établissement de luxe, elle rationnait le nombre de biscottes qu'elle donnait chaque jour à ses résidents. Et quand c'était deux biscottes, c'était pas trois, alors que ce résident payait 8000 euros par mois.
C'est une enquête qui fait froid dans le dos. Pendant trois ans, le journaliste Victor Castanet a recueilli des centaines de témoignages, 350, sur la face cachée des maisons de retraite, le numéro 1 mondial du secteur, notamment Orpea. Le livre s'appelle « Les Fossoyeurs ». Il évoque notamment les Bords de Seine, l'un des établissements du groupe, l'un des plus chers aussi en France. Un établissement où a séjourné la romancière et comédienne Françoise Dorin. Bonjour Sylvie Mitinguès.
Bonjour.
Vous êtes la fille de Françoise Dorin et de Jean Poiret. Merci beaucoup d'être avec nous dans RTL Midi. Votre maman a donc passé deux mois et demi dans cet établissement. Racontez-nous.
Ben oui, effectivement, ça a été très rapide. Et j'ai choisi cet établissement d'abord parce que c'était près de chez elle et bon, pour des raisons pratiques. Et puis surtout, la vitrine était vraiment très attrayante. Tout ce qu'ils m'ont dit quand je suis allée la visiter, c'était très rassurant. Il y avait soi-disant un médecin en permanence. Tout était au mieux. Et puis ce qu'on dit pour attirer le client et les faits sont assez lointains.
C'est-à-dire ?
Très vite, elle a déclaré une escarre qui n'a pas été soignée comme il fallait. Et de là a découlé un choc septique qui a entraîné son décès deux mois et demi après son entrée.
Et vous n'avez pas porté plainte à ce moment-là ?
Mais non, je ne sais pas si vous avez encore vos parents, mais enfin c'est des moments... c'est des moments très difficiles. Puis, très honnêtement, bon, je ne suis pas une procédurière et je me voyais mal en face d'une société comme Orpea. Je préfère en parler maintenant. Le temps a passé, ça fait 4 ans, et d'appuyer la démarche du livre.
Vous avez vu l'état de votre maman se détériorer. J'imagine que vous avez alerté le personnel. Qu'est-ce qu'on vous a répondu à ce moment-là ?
On n'a pas parlé du tout de cette escarre. Donc, elle dormait de plus en plus et je pense qu'on la bourrait de calmants pour qu'elle souffre moins. J'ai demandé si... on m'a assuré qu'il n'y avait pas de calmants supplémentaires, voilà, que tout était normal. Et jusqu'au jour où on m'a appelé pour un examen plus approfondi dans un hôpital. Et là, j'ai découvert un trou béant de la taille de mon poing. Et elle souffrait horriblement et le choc septique est venu 5 jours ou 6 jours après.
Je ne sais pas dans quel état physique et psychologique était votre mère, mais est-ce qu'elle s'est plainte auprès de vous de mauvais traitements de cette maison de retraite ?
Non, mais maman souffrait d'Alzheimer, donc...
Elle ne pouvait pas se rendre compte
voilà,
de la situation qui était
la sienne. Elle n'analysait absolument pas. Je pense qu'elle souffrait, ça c'est indéniable, mais non, elle ne se plaignait pas.
Et le rationnement, on entendait tout à l'heure le rationnement des couches, pardonnez-moi de dire des choses aussi précises. Est-ce que vous avez eu ce sentiment, les biscottes rationnées, c'est pas deux biscottes, est-ce que vous avez eu ce sentiment que ça existait ?
Honnêtement, non. Je pense que pour les couches, par contre, ça c'est totalement vrai, et parce que les escarres se développent plus facilement quand on laisse les gens dans leurs excréments, ça c'est sûr. Le principe, c'est que on n'a pas traité cet escarre qui est bénin à la base, comme il aurait dû être, et ça n'a pas été vu par un médecin.
Alors l'enquête de Victor Castanet, je le disais, elle repose sur plus de 350 témoignages, à la fois des témoignages de famille, mais aussi beaucoup de personnel. Nous avons contacté bien sûr la direction d'Orpea et écouté leurs réponses. On vous fera réagir juste après, écoutez.
On a toujours placé le bien-être des résidents avant tout autre aspect. 95% des gens considèrent que nous effectuons notre métier très correctement. Il peut y avoir ponctuellement des périodes où on puisse avoir des imperfections, mais notre engagement, c'est d'y remédier dans les plus brefs délais. C'est plutôt des dysfonctionnements d'organisation. Jamais chez Orpea, nous avons rationné quoi que ce soit. C'est totalement faux.
Lorsque vous entendez la réaction donc, du directeur d'Orpea, quelle est la vôtre, madame ?
Oui, bah, il défend son bout de gras, comme on dit. Je ne peux pas penser que ce soit volontairement, mais enfin, qu'il y ait des dysfonctionnements, ça c'est évident.
Vous acceptez, madame, de témoigner 4 ans, vous le disiez, après le décès de votre mère, Françoise Dorin. C'est pour qu'il serve à quelque chose, ce témoignage ? Vous interpellez
exactement
aujourd'hui les pouvoirs publics, que le gouvernement, par exemple, mette le nez là-dedans, si j'ose dire ?
Oui, ce serait une bonne chose. Et puis, je ne sais pas, de considérer que l'argent qu'on demande aux résidents soit mieux employé, peut-être un peu moins pour le décor et un peu plus pour les soins.
La somme que vous donniez d'ailleurs était très importante. On a parlé de 8000 euros par mois, c'était cette somme-là ?
Oui, c'est cette somme-là.
Ce qui est beaucoup d'argent, 8000 euros.
Ce qui est beaucoup d'argent, mais bon... maman avait travaillé toute sa vie, donc je pensais bêtement qu'elle serait au mieux dans cet établissement. Et j'ai eu l'impression qu'on avait bafoué ma confiance, et je m'en suis voulu, j'ai culpabilisé, vraiment. Donc je leur en veux aussi pour ça, pour ma culpabilité.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Et donc, je rappelle ce livre. Victor Castanet, l'auteur et journaliste, était ce matin l'invité d'RTL. Ça s'appelle donc Les Fossoyeurs.
Une nouvelle pause et dans un instant, un autre témoignage bouleversant, celui de la mère du brigadier Alexandre Martin, tombé samedi au Mali.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Bientôt 12h52 sur RTL. Deuxième témoignage très fort, on vous le disait aujourd'hui dans RTL Midi, celui de la mère du brigadier Alexandre Martin, tué samedi au Mali. Une maman effondrée, bien sûr, mais très fière de son fils qui n'avait que 24 ans.
C'était un héros. Il a fait ce métier par passion. Enfin, c'était sa vie, l'armée était sa vie. Même si il est parti, il a fait son choix de vie.
Sa vie, c'était l'armée, dites-vous. Il avait fait le choix de s'engager très tôt.
Oui, très très tôt, à l'âge de 17 ans. Même avant, puisqu'il avait fait les pompiers pendant une année, tous les week-ends, pour voir ce qu'était l'armée. Et après, à ses 18 ans, quand il a eu le droit de s'engager, il s'est engagé.
Pourquoi ?
Parce qu'il aimait... mon fils était très carré dans sa vie. Tout était carré. Je disais toujours, mon fils, Alexandre, il est carré dans sa vie comme dans sa tête. Tout était toujours réglé. Il ne fallait pas un caillou dans le roulement avec Alexandre.
Il était malgré tout, j'imagine, conscient des risques.
Il était très conscient, mais il disait toujours, maman, t'inquiète pas. De toute façon, c'est ma vie et tu m'empêcheras jamais.
Vous n'avez jamais essayé de l'empêcher ?
Non, parce que moi j'ai 2 enfants et pour moi ils doivent suivre leur chemin comme ils ont envie. J'ai eu des enfants, je les ai élevés pratiquement seuls et ils ont fait leur choix de vie.
Mais j'imagine que pour une maman, avoir son fils qui a 18 ans vous dit moi je m'engage dans l'armée, vous le voyez partir au Mali, je crois qu'il y était depuis le mois d'octobre, forcément pour une maman c'est quelque chose de difficile.
C'est très dur. On se réveille le matin en disant est-ce qu'il est connecté. J'envoyais un message tous les matins. Et il me disait oui, maman, courage. Et on se voyait par cam pratiquement tous les week-ends. Et je lui disais ça va. Il me disait oui, ça va. Très, très bien. Et toi ? Voilà ses messages. Il n'y a eu jamais un moment où il s'est plaint, jamais. Il m'a dit, par contre, je vais te raconter tout quand je vais rentrer.
Vous échangez donc régulièrement avec lui
Tous les matins, j'envoyais un message.
Votre dernier échange, il remonte à...
À une heure avant qu'il soit... Excusez-moi. Une heure avant son décès. On avait échangé parce que ses grands-parents sont décédés pas très longtemps. Et en fait, on devait vendre l'appartement de ses grands-parents. Et on doit signer la vente le 1er février. Et je lui avais marqué, en fait, parce que je leur parlais tout. Je leur parle de tout à mes enfants. Je leur dis tout ce que je fais, tout ce qui va se passer, tout ce que... Et le fait, c'est qu'il m'a dit, mais maman, là, je travaille. Donc, si tu veux, on en reparlera demain. On se verra par cam.
Vous travaillez donc au CHU. Aussi un métier d'engagement. C'est dans votre ADN à vous, dans celui d'Alexandre?
Oui, parce que moi, j'ai voulu faire mon métier, j'avais 16 ans. Mes parents ne voulaient pas. Enfin, j'avais ma mère qui me disait, mais ta vie, elle va être bousculée, tes week-ends, enfin, tout. Je lui ai dit, non, mais moi, je veux faire ce métier-là. Je veux.
Mais c'est pour ça que vous avez laissé aussi Alexandre faire ce choix-là, si jeune.
Oui. Oui.
Il avait 24 ans, elle est fêtée ses 25 ans au mois de mars. J'imagine qu'il avait plein de projets.
Il devait se marier l'année prochaine. On devait aller dans le sud. Tout était organisé. On avait même acheté le champagne. Je devais acheter un appartement dans le sud pour être près de lui à ma retraite. Ma vie est bousculée. Je n'achèterai pas cet appartement. Voilà. Alors elle me disait, tu sais, maman, t'achètes l'appartement, mais je serais peut-être pas là, je serais peut-être en mission. Mais je dis, mais c'est pas grave, si t'as des enfants, on pourra les prendre, nous.
C'est un choc inouï, j'imagine, pour une maman de perdre un enfant dans ces circonstances-là.
Oui, on peut même pas s'imaginer que...
On peut pas être préparé à ça, et pourtant, non. Vous saviez que c'était dangereux.
Oui, je le savais, mais quelque part, je peux pas interdire la vie, le choix de vie. Moi, j'ai fait un choix de vie dans ma vie, c'est d'être soignante. Et moi, je dis toujours, quand je voyais des jeunes mourir avant qu'ils partent au Mali, je pleurais devant la télé, parce que j'étais retournée et j'aurais jamais cru qu'on aurait pu atteindre mon fils.
Alexandre est le 53e soldat français tué depuis l'engagement de la France au Sahel. C'est un combat utile, d'après vous, la maman d'Alexandre ?
Moi, pour moi, je peux dire ce que je pense ?
Bien sûr.
Moi, pour moi, je pense que non. C'est envoyer l'armée au casse-pipe, quoi, pour moi. Enfin, c'est une guerre de des années qui durera des années et que rien n'arrangera la situation, quoi. C'est des gens qui n'ont pas compris que les Français étaient là, enfin les armées étaient là pour les aider. Partir au Mali, quand il me l'a dit, moi j'étais pas très bien. Et là j'avais qu'une hâte que ça s'arrête parce que j'étais pas très bien dans ma tête, en fait.
Vous aviez hâte qu'il rentre ?
Ah oui, oui.
Valérie Follin, la mère du brigadier Martin, un témoignage bouleversant, extrêmement digne également. Alexandre aurait dû rentrer du Mali le 22 février prochain, dans quelques semaines donc. Le grand public pourra lui rendre hommage demain sur le pont Alexandre III à Paris, avant une cérémonie aux Invalides, cérémonie intime, puis une autre jeudi ailleurs, là où était installé le 54e régiment d'artillerie auquel il appartenait.
Nous allons marquer une pause et vous allez pouvoir évoquer tous les sujets d'actualité du jour. À tout de suite.
RTL Midi.